auditeurs de Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Notre émission Par ici les sorties nous a donné la possibilité d'assister à la remise du 9e prix Fulbert de Chartres à l'auditorium de la médiathèque. À Chartres, bien sûr. Merci à Patrick Giroudet, adjoint au maire de Chartres, et à Valérie Montaldi, lauréate de ce prix, de m'accorder cet entretien. Et bienvenue à tous les deux. Monsieur Giroudet, vous êtes président fondateur du prix Fulbert de Chartres. En quelques mots, voudriez-vous rappeler à nos auditeurs l'historique de ce prix que vous venez de remettre à Valérie Montaldi?
Alors, l'origine est 2006. On l'a créé à l'occasion du millénaire, donc la célébration nationale, qui est pour le millénaire de Fulbert de Chartres, puisqu'il a été nommé évêque en 2006. Et donc, on a voulu à cette occasion créer un prix littéraire grand public qui concerne un ouvrage sur le Moyen-Âge. Et l'année suivante, on a aussi rajouté un prix Fulbert de Chartres jeunesse, parce qu'on a voulu impliquer les écoles dans notre projet de mettre en valeur Fulbert de Chartres.
D'accord. Alors, qui était Fulbert, juste avant de parler des livres et des...
Alors, Fulbert est la grande image du Moyen-Âge chrétien en Europe. Et donc, il était, on pourrait dire, le recteur de la cathédrale de Chartres et surtout de l'école cathédrale, qui est fondamentale dans l'histoire du Moyen-Âge chrétien, puisqu'à l'époque, Chartres est sur la route de la Reconquista et l'école de Chartres a des étudiants qui viennent de l'Europe entière.
C'était un personnage européen. Il était en relation avec tous les grands hommes de ce monde.
Exactement. Le rayonnement de Chartres était incontournable à l'époque.
Et
d'ailleurs, à l'époque... Dans la banlieue de Chartres, il y avait une petite ville qui s'appelait Paris, et qui s'est développée depuis. J'espère, en faisant ce prix, remettre Chartres au niveau du rayonnement que nous avons connu au Moyen-Âge.
Voilà. Alors, ce prix Fulbert, donc, créé il y a 9 ans, attire des livres du Moyen-Âge, forcément.
Oui, mais grand public. Hein. C'est notre but, des belles histoires qui donnent envie de lire. Donc, d'ailleurs, il est maintenant au mois de juin. Les Royalas sont connus en juin pour avoir une bonne lecture au cours de l'été, sur la plage, ou pour les enfants aussi pendant l'été. C'est à la fois de faire connaître Chartres et aussi la langue française et la culture française en France et dans le monde.
Alors, que pouvez-vous nous dire de la sélection de cette année?
Ah, c'est toujours très compliqué. Mais grâce aux membres du jury, on a un jury très efficace.
D'abord, il y a combien de livres qui partent au
Alors, on part environ une vingtaine. Et puis dedans, on fait une sélection de trois nominés. Et dans les trois nominés, on choisit le lauréat. Et donc, c'est un choix fait sérieusement par les membres du jury, de François Haber en étant le président. Et on fait des fiches techniques, on se réunit régulièrement. Et assez facilement, on arrive à sortir trois ouvrages qui sont donc les nominés du prix, que vous connaissez dès le mois d'avril. Et le lauréat, c'est un peu plus délicat, souvent on a des hésitations, mais cette année il n'y a pas eu d'hésitation pour Valérie.
je voulais savoir, est-ce que c'était unanime Le choix était unanime?
Ça a été au premier tour de scrutin.
Ah, c'est merveilleux. Je pensais qu'il fallait y retourner une nouvelle fois.
Il y a des années où c'est plus délicat, on en trouve deux, on se dispute un peu pour savoir lequel sera lauréat. Et des fois on a dit, mais on a aussi beaucoup apprécié, même s'il n'est pas lauréat, pour encourager les lecteurs à lire les deux. Mais bien sûr, le lauréat est bien plus important.
Le prix Fulbert de Chartres a bien entendu... comporte des livres pour adultes et aussi des livres pour des enfants.
Oui.
Pour la jeunesse. Oui. Alors, il y a un prix Fulbert de jeunesse aussi cette année.
Oui, qui est Brigitte Copin pour La Demoiselle sans visage. C'est un très joli petit livre sur la vie au Moyen-Âge pour quelqu'un qui est serf d'un seigneur et comment il peut réussir à être libre. Et donc c'est vraiment une très belle histoire avec beaucoup de rebondissements et vraiment aussi j'ai beaucoup aimé le livre de Brigitte Copin.
Donc Brigitte Copin n'a pas pu être là pour des raisons disons techniques.
Et oui, en ce moment c'était la grève, la grève des trains en France et comme elle habite Albi, elle avait le train de nuit à prendre à Toulouse qui malheureusement n'a pas pu
être présent. Voilà. Et le jury alors, c'est composé d'environ combien de personnes?
Nous sommes 8 membres et donc... de Chartres.
Oui, d'accord. Ce ne sont pas des critiques littéraires.
Nous ne sommes pas des spécialistes de littérature, mais on a plaisir à se retrouver, à commenter et à choisir. Justement, c'est pour le grand public. Alors, on fait quand même attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs majeures historiques. Ça, j'y tiens beaucoup, j'ai une formation d'historien, et donc on choisit quand même des ouvrages qui n'ont pas d'aberrance historique. Et puis une histoire qui paraît possible et logique, éventuellement bien sûr romancée, hein, on n'est pas sur une biographie, bien qu'on pourrait couronner une biographie, mais cette année c'est un roman. Et on a aussi des fois des années couronnées un documentaire, comme l'année dernière, avec les chevaliers au Moyen-Âge. Donc c'est très variable, on essaye de varier nos thèmes, de varier nos lauréats, et on a grand plaisir cette année à couronner une auteure italienne.
Oui, et ce n'est pas la première fois que ça se produit.
Non, je pense que l'Italie est très riche en belles histoires, en beaux romans du Moyen-Âge.
C'est étonnant de voir. Étonnant. Merci Valériane d'avoir pensé à notre pays.
Oui, parce que, bien sûr, on a étendu il y a quelques années dans le cadre, c'est vrai que nous sommes maintenant en Europe, et donc on a étendu aux auteurs européens, traduits en français, et on a souvent des belles surprises dans la littérature historique étrangère. Et c'est vrai que...
C'est vrai, souvent on découvre une partie de l'histoire de France à travers ces romans venus de l'étranger.
Oui, aussi. Et puis, là, il y a une histoire qui se passe à Tallinn, une autre dans les nominés, c'est un peu partout dans l'Europe. Et ça donne une ouverture aussi sur l'Europe pour les lecteurs.
Et là nous rejoignons l'esprit de Fulbert.
Tout à fait, l'esprit de Fulbert, c'est l'Europe.
C'est l'Europe.
Et c'était déjà l'Europe en construction au XIe siècle.
En fait, c'était un homme très moderne déjà.
Oui, en beaucoup de domaines, dans la musique, il a beaucoup créé, dans tout domaine, il a beaucoup créé.
C'est vrai. Vous-même, vous lisez tous les livres ou juste vers la fin, les derniers choix des autres, parce que vous êtes un homme très occupé avec la mairie.
C'est vrai que je lis peut-être un peu moins que dans les premières années, mais je tiens à parcourir tous les ouvrages dans la première sélection, de façon à pouvoir donner mon opinion. Et bien sûr, dans les trois nominés, je les lis avec soin pour connaître les trois œuvres.
Alors donc, pour accompagner cette émission que nous consacrons au prix Fulbert de Chartres, ce prix Fulbert oblige, j'ai choisi l'ensemble Fulbert et la maîtrise du Conservatoire de Chartres pour accompagner donc cette émission qui se sont produites sous la baguette de Philippe Frémont. Après cette première pause musicale, je me retrouve en compagnie de mes invités Patrick Gerbet et Valéria Montaldi. Bonjour Valéria.
Bonjour.
Et merci d'être venue de si loin, car il faut savoir que pour recevoir le prix Fulbert de Chartres, Valéria Montaldi est venue directement de Milan. Félicitations pour votre livre, pour votre
prix. Et le titre du livre, je répète, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais en tout cas, ça s'appelle « La rebelle, femme médecin au Moyen-Âge ». Votre livre a retenu l'intérêt du jury. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Avant tout, bonjour à tout le monde. Merci pour le prix. Je suis très contente et très surprise, comme Monsieur Jury disait tout à l'heure pour une autre chose, de l'avoir reçu. Alors, j'écris des romans au Moyen-Âge, c'est-à-dire qui s'éroulent pendant le Moyen-Âge depuis une douzaine d'années. J'ai commencé avec le premier qui parlait de moines, d'un moine anglais venu par l'Angleterre, évidemment, et puis qu'il a traversé toute l'Europe et s'est arrêté au Val d'Aoste, qui c'est une place italienne sous les premières Alpes, les plus hautes, mm-hmm. les premières montagnes. Et il y a toute une histoire. Le second, il y a encore ce moine qui est protagoniste et qui se déroule à Milan. Et puis encore un autre avec lui encore à Milan et un peu dans la Val d'Aoste. Et puis un autre.
Sujet plutôt religieux.
Non, c'est non. pas non.
Ben, les moines, enfin.
Non, non. Je voulais justement écrire d'une personne, c'est-à-dire de moine, qui a commencé sa vie en faisant le moine, et pendant les années et les choses qu'il a vues et qu'il a vécues. On dit vécu.
Vécu, ouais. Oui, c'est ça.
Pendant ses aventures, mm-hmm. Il est devenu un homme normal, avec tous ses doutes, tous ses rébellions à mm-hmm. l'injustice.
On le retrouve dans votre livre.
Oui. Alors, oui. On le retrouve pendant cinq livres, c'est un roman. Dans La Rebelle, qui est ce roman, il est encore. Il est
présent.
Pas, oui, il n'est pas le protagoniste. Protagoniste, mais il est on dit co-protagoniste en français.
Oui, enfin, voilà. C'est un des personnages secondaires.
Voilà, il est un des plus importants personnages du roman et il n'est pas présent dans mon dernier roman qui est La prisonnière de Venise, même parce qu'il est sorti l'année dernière en Italie, même parce que La prisonnière de Venise est. Un siècle après,
c'est-à-dire... Ça se passe après.
Voilà.
En fait, excusez-moi, mais je pense qu'il y a une sorte de continuité, finalement. C'est, vous
oui,
avez un fil conducteur.
Oui, oui.
Et donc, voilà, c'est ça. Parce que en votre livre, donc, La Rebelle, je l'ai lu vraiment avec un immense plaisir et j'ai découvert avec grande surprise qu'une femme, à l'époque du bon roi Saint-Louis, pouvait être médecin, femme médecin. C'était tout à fait étonnant d'imaginer ça.
Mais il y avait vraiment des femmes médecins.
J'imagine.
Il y en avait une à la cour de Louis, de Saint-Louis. Mm-hmm. Maintenant, je ne me rappelle plus le nom, mais il y en avait une qui soignait le roi et sa cour et sa famille. Et il y en avait beaucoup, même en Italie, mm-hmm. Et très importante. Mais il y a un problème, que l'histoire qu'on nous
enseigne,
voilà, a été écrite par les
hommes. D'accord.
Et pas par les femmes. Alors, tandis que les noms des médecins hommes, nous les connaissons, des femmes qu'il y a eu, on les connaît très très peu, mais quelques-unes.
Il y en avait.
Oui,
justement, je voulais dire que dans ce livre, bien sûr, on parle des femmes en général, et donc de leur vie au Moyen-Âge, et bon, de la médecine qu'elles exerçaient, certaines, et donc votre héroïne Caterina en particulier. Mais ce que j'ai aussi relevé, c'est que vraiment il est question de la misogynie.
Oui.
Cette misogynie est extrêmement présente, et je me dis qu'il n'était certainement pas facile d'être femme au Moyen-Âge, et encore moins d'être femme médecin.
Il était absolument difficile d'être femme au Moyen-Âge parce que la profession était absolument masculine, même si était apanage des hommes, enfin. Mais comme je disais tout à l'heure, il y en avait de femmes médecine qui devaient, comme je fais faire à ma protagoniste, devaient subir, comment se dire, subir des humiliations, devaient subir des chantages pour pouvoir poursuivre sa profession. Voilà. Et la même chose, c'était soit à Milan, où se déroule la deuxième partie du roman, que à Paris, où se déroule la première. Ici, en France, il y avait le roi, il y avait une cour, il y avait beaucoup de richesses versus, on dit en français, versus, non. Alors, je veux dire, il y avait le roi, une ostentation énorme de luxe, d'une part. De l'autre part, il y avait une pauvreté énorme. Voilà. La même chose était en Italie et même à Milan, où il n'y avait pas le royaume, il y avait le commune. Mais c'était la même chose.
C'est peut-être pour ça que vous avez placé finalement votre roman aux deux côtés des Alpes. Non, c'est peut-être pour ça que vous avez placé.
Oui, oui.
Puisque finalement, il y avait beaucoup de similitudes.
Oui, oui, parce que toujours, mais dans ce temps-là surtout, la situation sociale et des gens, des personnes était plus ou moins, comment on dit en français.
Plus ou moins.
Voilà, plus ou moins la même.
La même chose.
La même chose. Mm-hmm. Grande richesse d'une part et grande pauvreté. Mais pauvreté, vraiment pauvreté, c'est-à-dire ceux qui n'avaient même un œuf à manger pour une semaine.
Voilà, extrêmement. Hein. Oui, parce qu'il y a une description d'ailleurs dans le livre extrêmement nette de ces endroits sordides.
Mais c'était vrai, c'est pas de la fantaisie de l'écrivain, c'était vrai, d'accord. C'était vraiment comme ça.
Et les sources, vous les avez trouvées où?
Et les sources sont une belle fatigue.
Sur place.
Toujours. J'ai trouvé des sources sur... Alors, pour l'Italie, je suis habituée à chercher dans les bibliothèques, dans les archives, je cherche des livres partout, même sur Google Livres, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français.
Oui, oui.
Quelque chose on trouve de particulièrement ancien qui n'est pas plus... qu'on peut pas trouver...
facilement.
Imprimé. Mm-hmm. Et ils sont des trésors. Parce que, par exemple, pour Paris, au XIIIe siècle, plus ou moins, j'ai trouvé des ressources, justement, sur Google Livres, en français ancien, qui n'a pas été facile, mais en tout cas, j'y ai réussi, qui m'a donné beaucoup, mais vraiment beaucoup de renseignements sur la vie quotidienne de Paris, de la France de cette année. De ces années.
En tout cas, c'est vrai que ça nous apporte énormément ce livre. Alors, on va continuer notre conversation et découvrir aussi quand même en quelques mots le prix Fulbert de jeunesse 2014, malgré l'absence de lauréate. Et mais en attendant, on écoute encore un petit peu la maîtrise du conservateur de Chartres et l'ensemble Fulbert.
Thank you.
Aujourd'hui, dans notre émission Par ici, les sorties, nous sommes à la médiathèque de Chartres. Patrick Géroudet vient de remettre le prix Fulbert de Chartres 2014 à Valeria Montaldi pour son roman La Rebelle. Monsieur Géroudet, il y a aussi un prix Fulbert de jeunesse que n'a pu recevoir aujourd'hui Brigitte Copin pour son œuvre intitulée, donc, on a cité tout à l'heure, La Demoiselle sans visage, pour des raisons qu'on a déjà évoquées au début de notre émission. Que pouvez-vous nous en dire en l'absence de l'auteur ?
Brigitte Copin est bien connue, puisqu'elle publie beaucoup écrit beaucoup d'ouvrages pour les enfants de fin d'école élémentaire, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e. Mm-hmm. Et donc, celui-ci est particulièrement attractif, La Demoiselle sans visage, où on suit l'histoire d'Aliette et de son petit frère Pierre, et de ses parents, bien sûr, dans leur quête de liberté. Mmh. Et c'est tout à fait intéressant de voir aussi cette vie quotidienne bien décrite en France, à l'époque donc du Moyen-Âge, et dans une France assez heureuse, tout compte fait. Mais la vie quotidienne est difficile pour les serfs, et ils vont avoir... une vie qui va s'améliorer, en fait.
Oui. En fait, il y a l'espoir.
Il y a l'espoir. Et j'ai trouvé très beau cette notion d'espoir, oui, et de danger, bien sûr, oui, qu'on trouve à beaucoup de pages. Et que ça présente vraiment un intérêt, je pense, pour nos jeunes, de voir qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus terribles qu'ils vont vivre dans leurs aventures. Oui. Et donc, après cette Aliette au château, avec cette demoiselle sans visage que vous allez quand même découvrir, et pleine d'aventures inattendues, et ça représente bien aussi un peu, on a un peu la notion de médecine, tout compte fait,
oui,
que l'on retrouve aussi
dans la base de la médecine,
aussi.
Les plantes,
exactement, comment les plantes peuvent être efficaces, je
ne
veux pas en dire plus,
mais
c'est vrai que j'ai trouvé très beau cette vieille femme, on l'imagine vieille, on ne sait pas l'âge qu'elle a, mais au Moyen-Âge, on est vite dans les...
À 30 ans,
voilà, on est vite vieux, parce que je pense que ses enfants sont passés âgés que ça, mais elle paraît âgée en tous les cas, quand je l'ouvrage, et donc la notion de plante est très importante, et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un peu aussi cette médecine par les plantes, on en entend parler régulièrement aujourd'hui.
Finalement, ce Moyen-Âge était déjà très moderne, était notre 21e siècle avant l'heure. Voilà.
Tant qu'on est avant la peste, du 14e siècle, on est dans un Moyen-Âge en développement.
Mais nous avons un autre peste actuellement, donc effectivement, voilà.
Donc c'est vrai. C'est intéressant de voir
comment. Je pense que ce roman devrait fortement intéresser les jeunes et les enfants. Et donc, j'ai lu La Rebelle avec immense plaisir, et aussi ce petit roman de jeunesse, La Demoiselle sans visage. Et je m'étais dit en le lisant que j'aurais bien aimé avoir quelque chose dans ce genre-là quand j'avais 8 à 10 ans, puisque c'est rempli de renseignements sur cette période qui nous paraissait assez sombre, en fait. Donc, comme vous disiez,
le Moyen-Âge, ce n'est pas un bloc et ce n'est pas un âge moyen. C'est un âge, en fait, de développement formidable pour Chartres et sa région. Et là, on le ressent dans ce petit roman, c'est une période de développement de l'économie en France, globalement. Et ça, je pense que c'est intéressant de montrer à nos jeunes que, même quand il y a... que ce n'est pas notre période, une période de
En fait, on voit quand même, malgré l'espoir, heureusement, qui nous a... Et puis, c'est un livre qui se termine...
faut pas le dire.
Je ne dis pas. Ça ne termine pas trop mal. Voilà, c'est ça. Ça ne termine pas trop mal. Je pense qu'on voit aussi que la petite Aliette, dont vous disiez tout à l'heure le nom, joli nom d'ailleurs, puisque voilà, c'est quelqu'un qui s'envole avec des ailes. Donc c'est vrai que c'est tout un image. C'était pas facile non plus pour les enfants.
Non,
au Moyen-Âge.
L'adolescence n'existe pas.
Pour être un médecin, pour Caterina, l'héroïne de...
Et l'adolescence n'existe pas au Moyen-Âge.
On
est tout de suite dans la vie, même l'enfance existe à peine, en fait. On est tout de suite dans les champs, on travaille, en fait. Tout de suite, on voit Pierre comme Aliette, sont déjà au travail très jeunes. On ne se pose pas la question, il n'y a pas de frontière entre le travail. Aujourd'hui, on dit on ne peut pas travailler avant 16 ans, on ne peut pas ceci, on faut aller à l'école. À l'époque, tout était mélangé. On allait un peu à l'école, le curé éventuellement apprenait, il la lecture et apprenaient à lire, ou des choses comme ça. Mais ça, le tout était mélangé. Au beau jour, on allait dans les champs, au jour de neige, on travaillait un peu pour essayer d'avoir une petite base d'éducation.
Oui, c'était, bon, c'était notre vie, bien sûr, difficile à imaginer pour nos jeunes d'aujourd'hui, mais je crois qu'en lisant La Demoiselle sans visage, ils vont découvrir tout un, et aussi une sorte de comportement et la solidarité entre les gens qui ont des difficultés. Monsieur Gerdet, le prix Fulbert à 9 ans. En tant que président fondateur de ce prix, quelle analyse formulez-vous finalement sur son évolution ?
Eh bien, je suis très heureux, en fait. Je n'imaginais pas que 9 ans après, j'aurais encore ce prix qui fonctionne si bien. Et pour le rayonnement de la ville de Chartres.
Y avez-vous cru au début ?
J'y ai cru la première année. En 2006, j'ai dit pas de problème. On est dans les célébrations nationales du prix Fulbert avec Servane Delaire à mes côtés. Ça. C'était formidable. Et puis j'ai dit, mais les lauréats vont jamais venir à Chartres. Et en fait, tous les ans, j'ai les lauréats, ce qui est absolument fantastique. Je les remercie chaque année chaleureusement. Parce que, en plus, maintenant, on a des auteurs étrangers. Je me dis, mais ils vont pas venir. Et ils viennent. Ouais. Et je remercie vraiment Valéria. Ouais. Mais c'est incroyable parce que je me suis dit, on est de fait. Certains disent, c'est le Goncourt chartrain. C'est très aimable. Mais bien sûr, on n'en est pas un prix qui a une renommée aussi importante aujourd'hui, peut-être dans le futur. Et donc, je suis toujours fasciné de voir l'intérêt des maisons d'édition et des auteurs pour le prix Fulbert de Chartres.
Le prix Fulbert 2014 a mis les femmes à l'honneur. D'une part, les deux gagnants sont deux femmes, deux lauréates.
La parité n'est pas respectée.
Non, la parité, cette année, non, ce n'est que juste le retour des choses.
Enfin, je dis, hein, enfin.
Voilà, c'est ça.
Après tout ce siècle.
Et les héros de ces deux romans qui sont mis à l'honneur sont des héroïnes. Valérie, à votre héroïne, Katharina, ressemble à quelqu'un que vous connaissez ou bien...
Non. C'est une... La choix sur cette protagoniste a été l'envie de faire devenir justement protagoniste.
On l'imagine très belle, une belle femme.
Une belle femme. Une femme comme toutes nous pouvons être. Comme peut-être il y en a eu beaucoup et beaucoup que nous ne connaissons pas. Voilà. Hein. Et puis je pense, si je peux ajouter une petite, très petite chose... sur mon travail jusqu'ici sur les romans médiévaux, j'ai choisi ça parce que je pense que pour parler, je parle du Moyen-Âge, mais en réalité, je parle du présent.
Oui.
C'est la même chose.
Exactement, je crois que vous avez raison. Pour terminer, je voudrais savoir, donc vous disiez tout à l'heure qu'un autre livre est arrivé dans la suite. Nous y retrouvons Katharina ?
Je
faut le lire. D'accord.
Je ne sais pas.
On le dira. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. J'espère qu'on le retrouvera. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Encore toutes mes félicitations à Valéria pour le prix Fulbert et aussi à vous, Monsieur Géroudet, qui étiez à l'origine de ce prix Fulbert qui est tout à l'honneur de la ville de Chartres. C'est au son de l'ensemble Fulbert que je vous dis au revoir et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter ou réécouter sur notre site internet www.radiogranciel.fr. À bientôt pour une prochaine émission. Par ici les sorties. Stat noti.
sont.